Magasin Zinzin, Zinzin, le magasin.
Zinzin, le magasin radiophonique.
Zinzin, le magasin à Venise pour la seconde fois. Une deuxième ouverture exceptionnelle dans la cité des Doges. Venez nombreux, affublés de vos plus beaux apparats, pour évoquer avec nous la fête, la musique, la cuisine et bien sûr les gondoles et le carnaval.
Des pianos sur les ponts, des jardins d'émotions à Venise. Je t'attends sous le ciel des maisons éternelles qui s'enlisent. Je revois nos baisers anonymes, des Michel-Ange et des colliers de glycine, du délire des martyrs, des fous rires dans les églises. Saint Venise, pour l'éternité, Venise est en tournée. Mesdames et messieurs, applaudissez.
Avec moi, toujours le même Olibrius, un certain Johan, qui sera aujourd'hui encore notre guide à travers la Sérénissime. Bonjour Johan.
Bonjour Jackie. Et oui, aujourd'hui nous convions de nouveau nos auditeurs à une traversée vénitienne, mais cette fois sous l'axe de la fête. Et restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, puisque nous partagerons des bonnes recettes et nous parlerons des arts de la table.
Allez, on va commencer par l'incontournable carnaval de Venise. On a tous envie un jour de s'y rendre, d'y participer. C'est en quelque sorte une institution, mais quelles en sont les racines?
Alors, le carnaval de Venise s'inscrit évidemment dans la tradition de catholique romaine, puisqu'en fait, il se tient chaque année en février et précède le carême. Il débute 10 jours avant le mercredi des cendres et se poursuit jusqu'à mardi gras, ça fait au total 15 jours de festivités. Pour faire un parallèle avec le carnaval de Rio, qui est né en 1840, lui aussi puise ses origines, mais dans une fête portugaise qui s'intitule l'Entrudo, qui veut dire l'entrée. On imagine aussi l'entrée du carême.
Et comment ce carnaval de Venise a-t-il évolué au fil des siècles?
Au commencement du carnaval de Venise, c'était surtout un festival qui voulait célébrer la grandeur de la ville et affirmer sa puissance. Il était le moyen d'unifier les quartiers de la ville, les sestieri, et effacer les disparités sociales. Au cœur de la fête, on y voyait donc des aristocrates qui se mélangeaient avec les pauvres, et donc les frontières de classe étaient temporairement abolies. En fait, ce carnaval voulait renforcer l'esprit civique. Nous sommes autour de 1094, comme l'atteste un édit du premier doge, donc ça permet de dater l'origine autour du 11e siècle. Et à partir du 16e, l'opéra s'invite dans les festivités et les princes européens s'y pressent et donc ça commence à prendre de l'ampleur. C'est surtout au 18e siècle, quand on pense au carnaval de Venise, que notre esprit vagabonde, puisque c'est là où il y a des débordements, des travestissements, des manifestations de sauvagerie, où on se cache derrière des masques et où le doge lui-même vient en toute discrétion participer au carnaval.
Donc il est déguisé aussi, le doge, bien sûr.
Absolument, il est déguisé. Et tout cela est marqué par un coup d'arrêt par la campagne napoléonienne, nous le savons, puisqu'il prend possession de Venise et puis ensuite la vendra à l'Autriche. Mais surtout, le carnaval est exclu des rues à partir de 1797. Puis ensuite, le carnaval reprend lorsque Venise se réunifie avec l'Italie, le 18 octobre 1866, et l'exubérance des fêtes peut reprendre. On peut donc rappeler que Venise était une cité-état totalement autonome, qui a toujours conservé et choyé son indépendance, et c'est en 1866, sous le règne de Victor Emmanuel II, que tout cela s'est agrégé autour du roi. Et puis ensuite, vous le savez, en 1970, ce qui se passe?
C'est la réintroduction du carnaval.
Tout à fait, grâce à l'Office du tourisme qui a relancé et qui fait que le carnaval aujourd'hui est international.
Évoquions lors de l'émission précédente l'emblématique compositeur vénitien Antonio Vivaldi, dont nous écouterons tout à l'heure un extrait du concerto en A mineur. Mais ici, nous venons d'écouter, ou nous écoutons encore en fond, Claudio Monteverdi, autre grand compositeur vénitien de renom, un des grands créateurs de l'opéra. Avant d'évoquer deux personnages hauts en couleur qui pourraient incarner l'esprit carnaval, un petit clin d'œil au gondolier avec un extrait de la barcarolle d'Offenbach. La barcarolle, c'est un style musical directement lié au chant des gondoliers qui rappelle le mouvement lent des barques sur les eaux calmes des canaux. Johan, quels sont pour vous les personnages hauts en couleur qui pourraient faire penser à l'esprit carnaval? Je crois que vous en avez sélectionné deux.
Tout à fait, deux personnages hauts en couleur.
Parmi tant d'autres.
Oui, deux siècles les séparent, mais la folie les réunit, puisque vous allez voir, ce sont des personnages très excentriques. Le premier, du 18e, s'appelle Baffo Zorzi. Baffo Zorzi, c'est qui? C'est un homme d'État, mais qui en même temps était poète pornographique. Donc s'il y a bien un homme qui sait ce que c'est que porter un masque dans un carnaval et même dans la vie, c'est bien ce fameux Baffo Zorzi. Donc il était au magistrat, marié, 43 ans, mais ça donnait en fait à la poésie licencieuse, et je propose, Jackie, de monter crescendo et de vous en lire quelques passages. Si c'est trop, vous me dites d'arrêter.
D'accord. Okay.
Bon, il commence par, notre cher Baffo, « Il y a tant de mollesse dans les habitudes, tant de grâce dans les manières, la ville contient tant et de si grande beauté qu'on la croirait vouée à Vénus. »
Bon. Tout va bien jusque-là.
Tout va bien, c'est assez lyrique. Bon, je poursuis. Il est regrettable qu'il n'y ait pas plus de putains dans cette ville, mais les femmes mariées se chargent de les suppléer.
Ça passera encore.
Bon, et puis il poursuit, hein, très exalté.
C'est crescendo.
Quel bonheur, quelle jouissance d'entendre une virtuose chanter pendant que vous l'enfilez.
Oui, là, c'est déjà...
Bon, mais je passe le passage, quand même, où il parle des risques de vérole et d'écoulement, que le plaisir vaut bien, selon lui. Mmh. On rappelle que nous sommes au XVIIIe siècle vénitien, et il est vrai que Venise brille de ses derniers feux, donc, si vous voulez, c'est un peu la décadence, et c'est l'âge d'or de la débauche. Il termine, et en même temps, ça permet de clôturer sur le carnaval. C'est aujourd'hui le dernier jour de carnaval. Les putains du grand monde ont fini de se faire par devant et par derrière. Demain, nous serons carême. Et on verra les gondoles conduire à Castello ceux qui veulent encore s'amuser. Donc vous avez vu vraiment typiquement vénitien du 18e.
Ouais. Un autre personnage, une femme, Luisa Casati.
Tout à fait, qu'on appelle aussi simplement la Casati, qui vivait, elle, plutôt au 19e siècle. Nous sommes deux siècles plus tard. C'est une marquise richissime italienne, soucieuse du rendu théâtral de sa vie. C'est pour ça que je l'associe aussi à Venise, qui est toujours en représentation. Cette marquise adorait la couleur noire. Pourtant, elle avait fait repeindre sa gondole en blanc, juste pour se faire remarquer. Et donc, elle bravait une loi en vigueur depuis 1562. Est-ce que vous savez, Jackie, pourquoi les gondoles sont noires à Venise ?
Non, je ne sais pas, vous allez me l'apprendre.
Eh bien, en fait, c'est justement pour limiter l'excentricité des gens au XVIe siècle, puisqu'ils étaient très riches, et donc la gondole était un signe extérieur de richesse, donc on allait toujours plus loin dans l'ornementation, dans la décoration, donc c'était un peu bariolé, quoi. Donc il fallait esthétiquement un peu limiter tout ça, et puis unifier... l'ensemble. Et donc, cette marquise voulait de nouveau se faire remarquer et elle avait un guépard qu'elle promenait dans les rues de Venise. Elle achetait toujours plus de costumes qu'elle portait très régulièrement. Elle organisait des fêtes triomphales qu'elle organisait partout. Et elle avait fait faire un grand nombre de portraits d'elle par ses amis artistes. Tout ça pour vous dire qu'à la fin de sa vie, elle danse sur 25 millions de dollars de dettes. Et donc, sa ruine officielle est actée en 1932. Tout lui sera saisi et vendu aux enchères et les artistes dont elle s'est fait mécène jadis vont la soutenir par juste retour des choses, mais elle ne vivra que très modestement dans les rues de Londres où elle mourra en 1957. Voilà pour l'abrégé de cette existence périlleuse qui ressemble à la psychologie de Venise puisque derrière cette flamboyance, on se rappelle de la précarité de ses fondations et peut-être de la peur qui peut régner dans ses marécages.
Une petite pause musicale avec Albano et Romina Power. Felicità.
Felicità è tenersi per mano, andare lontano, la felicità è il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità è restare vicini come bambini, la felicità. Felicità,
felicità, è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, è la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità,
felicità, è un bicchiere di vino con un panino, la felicità, e lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità. E cantare a due voci quanto mi piace, la felicità, felicità.
Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va come un pensiero che sa di felicità.
Senti nell'aria c'è
Zinzin, le magasin, aujourd'hui est en Italie pour la seconde fois et à Venise plus particulièrement, Johan. Vous voulez nous faire une petite rectification ?
Oui, tout à fait. J'ai dit que Luisa Cassati était effectivement du 19e, elle est surtout du 20e, même si elle est née.
Oui, parce qu'elle est morte, moi j'allais dire en 1957.
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc, vous allez nous parler un petit peu des spécialités culinaires. Je crois que vous nous avez concocté un petit menu et puis des anecdotes.
Tout à fait, Jackie. Oui. On passe à table, Jackie, puisque c'est une cuisine essentiellement tournée vers la mer. Donc si vous aimez le poisson, les moules, les clams, le poulpe, ou si vous aimez les muequés, que sont ces crabes...
Qu'est-ce que c'est ça ?
Alors ce sont des crabes mous, typiquement vénitiens, des crabes mous qui sont frits, et les Vénitiens raffolent de ça. Il y a aussi dans la culture vénitienne et dans la cuisine beaucoup d'oignons. Parce qu'en fait, ça remonte historiquement à ce peuple de marins qui voulait éviter en fait les carences en vitamine C.
Le scorbut.
Absolument. Et donc, il y a beaucoup effectivement d'oignons incorporés dans les mets. Une petite curiosité que j'aimerais vous soumettre, Jackie, dans cette expression « bere un'ombra », qui veut dire « boire une ombre ». Mais qu'est-ce que ça pourrait signifier « boire une ombre » ?
Ça se rapporte au Campanile San Marco, j'en suis sûr.
Mais vous êtes doué, Jackie. Ça remonte effectivement aux marchands de vin qui travaillaient sur la place Saint-Marc à l'ombre du Campanile San Marco. Et donc, leurs petites échoppes mobiles étaient préservées au frais et donc ça a donné le nom à leur vin. On dit donc boire une ombre. Alors maintenant, entrée plat dessert. Pour vous, Jackie, une entrée. Je vous propose des cicchetti. Cicchetti, ce sont des petits toasts de saumon. Vous y trouvez de la charcuterie ou des tomates confites ou de la rillette de morue. C'est servi soit sur du pain, soit sur une portion de polenta. C'est très léger, ça se mange debout et les Vénitiens les dégustent dans les baccari. Ce sont les petits bars populaires. Ça vous plaît ?
Ah bah ça me fait bien envie, hein.
Bon.
Ça m'allèche.
Alors on passe au plat de résistance. Je vous propose des pastas à la Malamocchina, qui vient du village de Malamocco, comme son nom l'indique. Ce sont des pâtes qui sont cuisinées comme une bolognaise, mais vous remplacez le bœuf par un ragoût de fruits de mer. Donc vous rajoutez également du persil frais, du parmigiano, de la pulpe de tomate, polpa di pomodoro, et ça c'est délicieux, Jackie. Délicieux. En dessert, je vous propose, je relance la polémique malgré moi du tiramisu, puisque je lis dans les colonnes du Monde de juin 2018 qu'il y a une grande rivalité sur le tiramisu.
Il y a deux conceptions de ses origines.
Quoi. Oui, oui, la paternité est disputée, soit par la région de la Vénétie, soit le Frioul à côté. Et c'est en fait le président de région, Lucas Zaia, qui relance la polémique en voulant inscrire le tiramisu aux spécialités traditionnelles garanties, ce qui n'a pas du tout été du goût des habitants de la région d'à côté. Et voilà qu'on entend, non, c'est à Tolmezzo que le tiramisu est né, c'est ma mère qui l'a inventé en 1952, et son fils est parti exhumer les archives de la ville, dans lequel il a lu, deux randonneurs triestins auraient même dit, après l'avoir goûté, « tirimisu », qui veut dire « ça me remonte le moral ». Bon, quoi qu'il en soit, nous, on va pas chipoter, Jackie, on mangera tout, hein.
Oui, et puis on va s'écouter un Vivaldi, vous avez fini ou...
Ah oui, on peut manger
en même
temps.
On va s'écouter un Vivaldi qui n'est pas issu des quatre saisons, mais c'est un autre concerto. Concerto pour violon en A mineur.
Magnifique.
Thank you.
Fermons notre magasin Zinzin, c'est dommage mais il le faut, en ouvrant quand même quelques ouvrages parmi tant d'autres consacrés à Venise. Vous nous proposez quoi, mon ami Johan?
Alors oui, j'ai plusieurs livres à conseiller, notamment si on veut s'intéresser à la culture et à la gastronomie. On a un certain Alain Buisine, qui est un esthète couplé d'un gourmet, qui propose vraiment les spécialités et les tableaux. Donc c'est comme si vous étiez au musée la bouche pleine. Donc c'est vraiment très bien. Sinon, incontournable, il y a le dictionnaire amoureux de Philippe Solers, qui est généraliste, quoique un peu approximatif sur la description des tableaux. Puis sinon, vous, si vous êtes du côté de la littérature, l'histoire de ma vie de Casanova, qui a été écrit en français. On rappelle qu'à l'époque, c'était le grand style, donc vous pouvez le lire en français, sans traduction. Et sinon, pour les férus d'histoire, il y a le livre de John Julius Norwich, qui a écrit L'histoire de Venise, qui est un panorama exceptionnel, très fouillé, qui date de 1979. Bien sûr, pour les grands classiques.
Chateaubriand, après.
Absolument. Chateaubriand, Shakespeare, Byron. Et puis, pour ceux qui aiment les beaux livres, vous avez l'édition Diane de Sellier, qui est une petite édition parisienne, mais très savante, puisqu'on va réfléchir sur l'illustration et les textes, pour ceux qui aiment les beaux livres.
C'est dans la dédicace, Johan.
Oui, on peut lancer une dédicace à tous nos authentiques Vénitiens du Rouennais, s'il y en a. On les appelle et on les invite à donner un avis ou à nous contacter, à nous laisser un message sur le site de rvrradio.fr. Ça nous fera un grand plaisir.
Je vous rappelle que Zinzin le magasin, que nous fermons maintenant, c'est diffusé tous les...
Samedis à 17h.
Les dimanches à 16h. Et on peut retrouver Zinzin le magasin, tous les magasins Zinzin, il y en a pas loin d'une quarantaine maintenant, sur le site rvrradio.fr. On finit avec Toto Cotugno, c'est Venice.
Ciao bello.
Bye bye.
Di scuola ho studiato Venezia, quante storie d'amore hanno scritto i poeti a Venezia, la laguna che cambia colore come le nostre stagioni di cuore, se una donna la perdi la puoi ritrovare a Venezia. Quante volte i giornali hanno scritto salviamo Venezia, e poi quante bugiarde promesse han ferito Venezia. Sulla piazza San Marco sei mia, c'è il carnevale per un'altra follia, c'è sempre un canto d'amore e poesia solo a Venezia. Se Venezia, dove andrebbero gli innamorati a sognare Venezia? Sulla piazza San Marco sei mio, è un gondoliere che ci fa compagnia, c'è nell'aria una strana poesia, solo a Venezia. Senza età, se venire. pour l'éternité. Venise qui per jamais, come il nostro amore senza età.
C'était le Magasin Zinzin, une émission de Jacky Ming réalisée par Philippe Fest.